Chapitre 4. Dans la cour égayée par une corbeille de rosiers, Jean, une lettre à la main, cherchait à se reconnaître d'après les indications données à voix basse comme un secret par le frère portier. Il allait de porte en porte, hésitant, le long de vieux bâtiments déserts, quand un petit garçon remarqua son embarras et dit « Vous voulez voir monsieur le directeur ? Il est dans son cabinet avec maman. Attendez dans le parloir. » C'était une grande salle blanche, d'aspect assez noble dans sa nudité, malgré de pauvres chaises de crin rangées contre les murs. Sur la cheminée sans glace, une mater dolorosa attirait le regard par sa blancheur éclatante. De grosses larmes de marbre étaient arrêtées sur les joues de cette figure, qui exprimait l'engourdissement béat des douleurs saintes. Jean Servien lut cette inscription gravée sur le socle en lettres rouges « À Monsieur l'abbé Bordier, en mémoire de Philippe-Guy de Thietrerch, décédé à Pau le 11 novembre 1867, dans sa 17e année, la comtesse Valentine de Thietrerch, née de Bruxelles, de Saint-Amand, laudate pueri dominum. » Alors il oublia ses inquiétudes de solliciteur et l'effroi instinctif qu'il avait saisi au seuil de cette maison silencieuse. Il oublia sa crainte et son espérance, l'espérance d'être pion. Il assistait au drame domestique et cruel qui lui était révélé par cette inscription. Un enfant d'une des plus grandes familles de France, un élève de l'abbé Bordier, atteint de phtisie au milieu de ses études inutiles, et sortant du collège, non pour jouir de la vie et goûter ses magnifiques plaisirs, que méprise ceux-là seuls qui les ont épuisés, mais pour aller mourir dans une ville du Midi, entre les bras de sa mère, rempli d'une douleur immense, mais pompeuse, en jugée par le symbole de marbre qui la consacre. Il sentait, il voyait cela. Les trois mots latins qui font dire à cette mère « Enfant, louez le Seigneur qui m'a pris mon enfant » l'étonnaient par leur piété inhumaine. Et il admirait aussi qu'on gardât jusque dans la mort un tel air d'aristocratie. Il s'oubliait dans ses rêveries quand un vieux prêtre lui fit signe d'entrer. Le bonhomme prit la lettre de présentation que Jean lui tendit, mit sur son gros nez des besicles dont les vers étaient ronds, peu s'en faut comme les deux roues d'un petit chariot d'argent, et lut la lettre en l'éloignant de toute la longueur de son bras. Les fenêtres qui donnaient sur le jardin étaient ouvertes. Une branche de vigne vierge venait pendre sur le bureau, au pied d'un crucifix de vieil ivoire. Une petite brise faisait palpiter les papiers comme des ailes blanches. L'abbé Bordier, ayant fini de lire, tourna vers le jeune homme, sa large face labourée et son front que l'âge avait admirablement poli. Il ôta ses lunettes et se frotta les yeux. Ses paupières fripées, remontant lentement, découvrirent des prunelles d'un gris qui faisait songer au matin d'automne. Renversé dans son fauteuil, il allongeait ses pieds chaussés de souliers à boucles d'argent et montrait ses bas noirs. « Ainsi donc, mon cher enfant, dit-il, vous voulez comme me l'apprend mon respectable habit, monsieur l'abbé Marguerite, vous consacrer à l'enseignement, et votre intention serait de préparer votre licence tout en remplissant les fonctions de maître d'études. » « Ce sont des fonctions modestes, mais il ne tiendra qu'à vous, mon cher enfant, de les relever par le zèle du cœur et la volonté de bien faire. Je vous confierai l'étude des moyens. Monsieur l'économe vous dira quelles sont nos conditions. »
Jean s'inclina. Il allait sortir. L'abbé Bordier le retint par un geste brusque et lui dit « Vous entendez-vous au vers ?»« Au vers latin ?» demanda Jean. « Non, bravo, au vers français. Feriez-vous rimer trône et couronne ? L'oreille, il faut l'avouer, n'est pas très satisfaite de cette rime, mais l'exemple des grands écrivains l'autorise. À ces mots, le bonhomme saisit un gros cahier. Écoutez, dit-il, écoutez, c'est Saint Fabrice qui parle au proconsul Flavius. Achève, fais dresser l'appareil souhaité de ma mort, ou plutôt de ma félicité. Le roi des rois, du haut de son céleste trône, déjà me tend la palme et tresse ma couronne. Préférez-vous qu'il dise « Achève, fais dresser l'appareil souhaité de ma mort, ou plutôt de ma félicité. Je vois le roi des rois me tendre la couronne, qui n'en est pas le prix quand c'est Dieu qui la donne. » Mais ces vers sont plus corrects sans doute que les autres, mais ils ont moins de force, et le poète ne doit pas sacrifier l'idée à la rime. Le roi des rois, du haut de son céleste trône, déjà me tend la palme et tresse ma couronne. Et cette fois, il faisait en déclamant les gestes d'offrir et de tresser. « C'est mieux, ajouta-t-il, c'est mieux ainsi. » Jean, un peu surpris, dit que c'était mieux en effet. « N'est-ce pas ? » s'écria le vieux poète. Et il souriait avec la candeur d'un petit enfant. Alors il confia à Jean que c'était une tâche difficile que de faire des vers. Il fallait observer la césure, amener la rime sans effort, faire régner une harmonie tantôt forte, tantôt douce, parfois imitative, n'employer que des termes ou nobles ou relevés par quelques circonstances. Il lut un morceau de sa tragédie parce qu'il avait des doutes sur le nombre de la période, un autre parce qu'il y trouvait des audaces heureuses, puis un troisième afin de faire mieux comprendre les précédents, puis les cinq actes d'un bout à l'autre. Il jouait en lisant, changeait de voix selon les personnages, se démenait, et pour retenir sa calotte noire qui tombait aux endroits pathétiques, se donnait sur le crâne des coups de poing retentissants. Cette tragédie sacrée dont la femme était absente devait être jouée par les élèves de l'institution dans une solennité. L'année précédente, il avait fait représenter une première tragédie de sa façon, le baptême de Clovis. Un religieux, M. Schubert, avait suspendu des guirlandes de roses en papier pour figurer le champ de bataille de Tolbiac et la basilique de Reims. Afin de donner un aspect farouche aux enfants qui représentaient les compagnons de Clovis, la sœur lingère avait relevé jusqu'aux genoux leurs pantalons blancs. Mais l'abbé Bordier souhaitait mieux encore pour sa nouvelle œuvre. Jean soutint et agrandit cette ambition. Il fut admirable dans ses projets de décor et de costumes. Il voulait que le farouche Flavius siégeât sur une chaise d'ivoire garnie de pourpre devant un portique peint sur la toile de fond. Il voulait que les costumes des soldats romains fussent copiés sur ceux de la colonne Trajane. Oh, il ouvrait ainsi des perspectives magnifiques au bonhomme enchanté, ravi, mais inquiet. Car hélas, M. Schubert ne valait plus rien comme décorateur quand on le sortait de ses roses en papier. Il fallut que Jean visitât le hangar, et ils recherchèrent tous deux le moyen d'ouvrir la scène et d'agencer des coulisses. Jean prit des mesures, leva un plan, fit un devis. Il y mettait une passion singulière, mais qui ne surprenait pas du tout le vieux poète. Ici important, là impraticable, l'auteur entrerait par là. Le bon prêtre l'arrêta. « Dites le récitateur, mon cher enfant, acteur n'est pas un terme honnête. » À cela près, ils s'entendirent à merveille. Le jour baissait. L'ombre démesurée de l'abbé Bordier s'agitait sur le sable du hangar. Sa voix brisée jetait des rimes jusqu'au fond des cours. Et Jean Servien souriait au fantôme, visible pour lui seul, de Gabrielle, son inspiratrice. La longitude du soir se terminait dans un calme profond. Les grands abat-jours des lampes ramenaient la lumière sur les chevelures emmêlées des élèves qui travaillaient ou rêvaient le nez sur leur pupitre. On entendait le craquement du papier, le souffle des enfants et le grincement des plumes de fer. Le plus jeune, les joues encore brunies par la mer, songeait, sur son thème inachevé, à la plage normande et au château de sable qu'il élevait avec ses petits amis à la marée montante pour lutter contre la lame. Au fond de la salle, dans la haute chaire où le préfet des études l'avait installé solennellement sous le grand crucifix noir, Jean Servien, la tête dans les mains, lisait quelques poètes latins. Il était pris d'une tristesse infinie, mais il n'avait pas encore le sentiment que sa nouvelle vie fût réelle, et il s'attendait à ce que la salle d'études s'évanouît tout à coup avec les pupitres chargés de dictionnaires et des jeunes têtes dorées par la lumière des lampes. Tout à coup, une boulette de papier lancée du fond de la salle le frappa à la joue. Il pâlit et s'écria en tremblant de colère « Monsieur de Grisolles, sortez !» Il y eut des chuchotements, des petits rires, puis l'apaisement se fit. Les plumes grincèrent de nouveau et on se passait les doigts en cachette pour les copier. Il était pion. Son père en avait décidé ainsi sur le conseil de M. Marguerite, vicaire de sa paroisse, ami de l'abbé Bordier. Le relieur, plein de respect pour le savoir, se faisait une haute idée de tous ceux qui le donnent. Ce titre de maître d'études sonnait bien à ses oreilles. Il lui souriait de voir son fils entrer dans une institution aristocratique et religieuse. « Monsieur votre fils, lui disait l'abbé Marguerite, préparera sa licence dans l'intervalle de ses fonctions, et le titre de licencié ès-lettres lui donnera accès dans le haut enseignement. On a vu des maîtres d'études devenus grands maîtres de l'université s'asseoir dans le fauteuil de monsieur Le Fontane. » Ces raisons avaient déterminé le relieur et Jean était pion depuis 3 jours. Trois mois s'étaient lentement passés. C'était un vendredi. Une écœurante odeur de friture tiède emplissait le réfectoire. Un courant d'air froid saisissait les pieds à travers les chaussures humides. Les murs suintaient et l'on voyait derrière le grillage des fenêtres une pluie fine tombée du ciel gris. Les élèves, assis devant les tables de marbre, faisaient avec leurs fourchettes et leurs timbales un bruit agaçant, tandis qu'un de leurs camarades, assis dans la chaire au milieu de la grande salle, lisait, selon la règle, un passage de l'Histoire ancienne de Rollin. Jean, au bout d'une table, le nez sur son assiette de faïence, mal essuyé, avait froid aux pieds et mal au cœur. Quelque chose comme du bois pourri restait au fond de son verre, et les domestiques faisaient circuler des plats de pruneaux dont le jus leur lavait les pouces. Parfois, dans le tintement de la vaisselle, la voix âpre du lecteur de 17 ans lui arrivait aux oreilles. Il entendit le nom de Cléopâtre et quelques lambeaux de phrases. Elle allait paraître devant Antoine dans un âge où les femmes joignent à la fleur de leur beauté toute la force de l'esprit. Sa personne plus puissante que toutes les parures. Elle entra dans le Cydnus. La poupe de son vaisseau était toute éclatante d'or. Les voiles de pourpre, les rames d'argent. Puis les noms caressants de Néréides, de flûtes, de parfums. Alors le sang lui monta aux joues. La femme, qui était pour lui l'unique incarnation de tout l'éternel féminin, lui apparut avec une netteté prodigieuse. Un douloureux frisson de volupté hérissa tous les poils de sa chair, ses ongles entraient dans la paume de ses mains, et ce qu'il voyait lui causait des souffrances indicibles, des souffrances délicieuses. C'était Gabriel en peignoir devant les fleurs et les cristaux d'une table élégante et petite. Il voyait nettement et fouillait des yeux tous les plis de la molle étoffe que soulevait à la gorge le souffle de la jeune femme. Son visage, son cou, ses mains animées avaient un éclat extraordinaire et pourtant si naturel que le désir s'en exhalait comme de la réalité même. Le magnifique tissu des lèvres, pleines comme un fruit mûr, et le beau grain de la peau étalaient ses trésors pour lesquels on risque la mort et le crime. C'était la tragédienne enfin vue par les deux yeux qui, de tous les yeux du monde, avaient su le mieux la voir. Elle n'était pas seule. Un homme la regardait dans les prunelles en lui versant à boire. Ils se penchaient l'un vers l'autre. Jean retenait ses sanglots. Tout à coup, il lui sembla qu'il tombait du haut d'une tour. Le préfet des études était devant lui et lui disait « Monsieur Servien, voyez voir à punir l'élève Laboriette qui verse son abondance dans la poche de son voisin. » Le préfet des études, avec sa large face plate et ses façons sournoises de moine paysan, agaçait Jean Servien, à qui il recommandait tous les jours la fermeté, et qu'il desservait en toute occasion au pas du directeur. Les premiers temps s'étaient passés dans une monotonie assoupissante. Jean, avec ses manières discrètes, ses délicatesses d'esprit, et son air d'indifférence bienveillante plaisait aux élèves intelligents. Les autres, ou qui ne tracassaient pas, le laissaient tranquille, hors un, Henri de Grisolles, joli et féroce, fier de son nom qu'il écrivait en grosses lettres sur ses pantalons clairs, et heureux de nuire, avait dès le premier jour déclaré la guerre au pauvre pion. Il versait des bouteilles d'encre dans son pupitre, mettait de la poix sur sa chaise et lançait des pétards au milieu des études. Le préfet, attiré par le bruit, entrait comme un commissaire de police et recommandait à Jean « La fermeté, la fermeté !» Jean afficha au contraire une facilité excessive. Un jour, on fit sa caricature. Il la surprit, il la regarda, mais la rendit à l'élève en haussant les épaules. Cette mansuétude ne fut pas comprise et elle affaiblit son autorité. Les souffrances du pion devinrent aiguës. Il perdit la patience qui allégeait ses mots. Il ne tolérait plus l'agitation joyeuse des enfants, leur rire, leur contentement léger de vivre. Il punissait avec un sentiment visible de haine leur étourderie et jusqu'à leur joie. Puis il tombait dans une sorte d'engourdissement. Il avait des absences pendant lesquelles il n'entendait aucun tapage. Ce devint une mode d'élever des oiseaux, de faire des filets, de jouer de l'arc et d'imiter le chant du coq dans l'étude de M. Jean Servien. Et les élèves des autres divisions s'échappait pour voir à travers les vitres cette étude dont on comptait tant de merveilles et où des pantins collés au plafond par du papier mâché se balançaient au bout d'un fil. Monsieur de Grisolles avait installé une véritable baliste pour lancer des haricots à la tête du pion. Jean chassait Monsieur de Grisolles de l'étude. Monsieur le préfet réintégrait Monsieur de Grisolles, que Jean chassait de nouveau. Et c'était chaque fois un nouveau rapport au directeur. L'abbé Bordier, qui ne parvenait jamais à écouter Monsieur le préfet jusqu'au bout, levait les bras au ciel et s'écriait qu'on le ferait mourir. Mais il lui refilait dans l'esprit que le surveillant des moyens était une cause de trouble. Les dimanches, tout parfumés d'encens, se consumaient en office dans une allégresse langoureuse. À vêpres, pendant que le psalmodier clair des élèves traînait dans la chapelle, Jean contemplait quelques figures de femmes effacées dans l'ombre des tribunes. C'est là que, pendant l'office, les mères, les sœurs des élèves se tenaient, agenouillées et pourtant hautaines. Au chant de l'Ave Maria Stella, le fils du relief relevait les yeux sur ces femmes de vieille race, dont les moins belles se sentent d'un grand prix et gardent une fierté naturelle et simple. Les chants, l'encens, les fleurs, les images pieuses, tout ce qui fait qu'on se trouble et qu'on prie, amollissait son âme et la livrait tremblante à ses patriciennes. Mais c'est Gabriel qui la met en elle. Il l'appelait, l'évoquait, et tout ce qui dans la religion donna l'amour, l'attrait de la chose défendue, prenait pour lui un intérêt puissant. Athée, il aimait le Dieu de Madeleine et goûtait la religion qui a donné aux amants une volupté de plus, la volupté de se perdre. Les élèves se fatiguèrent peu à peu d'un tumulte que leur imagination ne savait plus renouveler. Monsieur de Grisol lui-même renonça à lancer des haricots. Il eut l'idée de faire du chocolat dans son pupitre avec une lampe à esprit de vin et une casserole d'argent. Jean le laissa faire, respira et ouvrit son sophocle. Monsieur le préfet, passant dans la cour, sentit une odeur de cuisine, fouilla les pupitres et trouva la casserole qu'il alla tendre chaude encore à monsieur le directeur en s'écriant « Voilà ce qu'on fait dans l'étude de monsieur Servien !» Monsieur le directeur se frappa le front, dit qu'on le ferait mourir, fit rendre à l'élève sa casserole, manda monsieur le surveillant, lui adressa de vifs reproches parce qu'il crut que son devoir l'y obligeait. Le lendemain, qui était jour de congé, Jean alla chez son père pour y passer la journée. Le relieur lui demanda s'il avait bien préparé son examen de professeur. « Mon garçon, ajouta-t-il, dépêche-toi de prendre un bon rang si tu veux que je t'y voie. Un de ces jours, ta tante et moi, nous nous en irons les pieds devant. La vieille a eu un étourdissement la semaine passée dans l'escalier. » « Moi, non, je ne souffre pas, mais je sens que je suis usé. J'ai beaucoup travaillé sur cette terre. » Il regarda ses outils et s'éloigna tout courbé. Alors Jean rassembla dans ses deux mains les vieux outils usés et luisants, ciseaux, poinçons, couteaux, plioirs, racloirs, et il les baisa. Il pleurait. Sa tante vint à lui, cherchant ses besicles. Tout bas, en secret, elle lui demanda un peu d'argent. Autrefois, elle économisait les sous pour les glisser dans la main de l'enfant. Maintenant, plus faible que l'enfant, elle craignait de manquer. Elle avait des cachettes et demandait des secours aux prêtres. D'ailleurs, sa tête n'était plus solide. Elle annonçait souvent à son frère qu'elle ne laisserait point passer la semaine sans aller voir les Bidots. Et les Bidots, en leur vivant portier tailleur à Montrouge, étaient morts tous deux, femme et mari, depuis 2 ans. Jean lui donna un louis qu'elle prit avec une joie si laide que le pauvre garçon s'enfuit dehors. Il se trouva, sans savoir comment, sur le quai près du pont d'Iéna. La journée était claire, mais les murs sombres des bâtiments, comme l'aspect gris de la berge, disaient que la vie est dure. Dans le fleuve, une dragueuse, toute jaune de marne, vivait l'un après l'autre ses seaux pleins de gravier fangeux. Au bord de l'eau, une robuste potence de chêne déchargeait des pierres meulières en virant sur son axe. Près du pont, contre le parapet, une vieille cuivrée gardait, en tricotant des bas, un étal de vieux gâteaux aux pommes. Jean Servien songea à son enfance. Sa tante l'avait mené bien des fois sur ce quai. Bien des fois, ensemble, ils avaient regardé la dragueuse amener à son bord, saut par saut, le son fangeux du fleuve. Bien des fois, sa tante avait échappé, changé des paroles avec la marchande de gâteaux aux pommes, tandis qu'il examinait, sur la table couverte d'une serviette, la carafe qu'emplissait une eau de réglisse et que bouchait un citron. Rien n'était changé, ni la dragueuse, ni les radeaux de bois flottés, ni la marchande de gâteaux, ni les lourds étalons élevés aux quatre angles du pont de Iéna. Et Jean Servien entendait les arbres du quai, l'eau de la rivière, les pierres du parapet qui lui criaient « Nous te reconnaissons, tu es le petit garçon que ta tante en bonnet de paysanne nous amenait autrefois. Mais nous ne reverrons plus ta tante, ni son châle d'indienne, ni son parapluie qu'elle ouvrait au soleil. Car elle est vieille maintenant et ne se promène plus, son neveu grandit. Et l'enfant devenu homme a été blessé par la vie, tandis qu'il poursuivait les ombres. » Un jour, pendant la récréation de midi, il fut averti qu'un visiteur le demandait au parloir. Il eut un mouvement de joie, car il était très jeune et comptait encore sur l'inconnu. Il trouva dans le parloir M. Tudesco, avec son gilet de toile à matelas et dans la main un chapeau pointu. « Mon jeune ami, lui dit l'Italien, j'ai connu par l'apprenti de monsieur votre père que vous êtes refermé dans le sanctuaire des études. Je vous dis, votre fortune est voilée de nuages, du moins je le crains. La médiocrité de votre condition n'est pas dorée comme celle du poète latin, et vous luttez d'un cœur vaillant contre la fortune adverse. Et c'est pourquoi je viens vous tendre la main, et je vous dis, vous considérerez comme une marque de mon amitié et de mon estime la demande que je vous fais d'une pièce de 5 livres qui m'est nécessaire pour soutenir une existence consacrée aux études. » Le parloir s'emplissait de parents et d'élèves. On entendait de gros baisers sonner sur les joues des mères, puis des exclamations « Comme tu as chaud !» et de longs chuchotements. Les sœurs des élèves en toilette claire épiaient avec malice les amis de leurs frères, et les papas tiraient de leurs poches des tablettes de chocolat. M. Tudesco, parfaitement à son aise dans cette belle société, ne semblait pas s'apercevoir de l'horrible gêne du maître d'études. Celui-ci ayant dit « Allez, venez, nous serons mieux ailleurs », le gros homme répondit « Je ne crois pas. » Il faisait de profondes révérences aux dames qui entraient et donnait des tapes amicales sur la joue des petits collégiens. Renversé dans un fauteuil et multipliant de toutes les façons l'effet de son gilet de toile à matelas, il racontait de sa vie ce qui lui en semblait le plus beau. « Les destins étaient domptés, disait-il à Servian, ma vie était assurée. Le patron d'un hôtel m'avait confié sa comptabilité et je me livrais chez lui à des calculs de mathématiques, non point comme l'illustre et infortuné Galilée, pour mesurer les astres, mais pour établir avec exactitude les profits et les pertes d'un industriel. Après 2 jours de ses fonctions honorables, le commissaire de police fit une descente dans l'hôtel, arrêta le patron et la patronne et emporta mes livres de comptabilité. Non, non, je n'avais point dompté les destins. » Toutes les têtes se tournaient avec de grands yeux verts cet extraordinaire homme. On chuchotait. Il y avait des rires étouffés. Jean, se voyant entouré de figures moqueuses et de mines allongées, entraîna Tudesco vers la porte. Mais tandis que, pour prendre congé, le marquis faisait de grandes révérences aux dames, Jean se trouva face à face avec le préfet des études qui lui dit « Monsieur Servien, veuillez voir à présider la retenue en l'absence de Monsieur Chouvert. Le marquis serra la main à son ami, le regarda s'éloigner, puis, se retournant vers les groupes assemblés dans le parloir, il fit un geste à la fois suppliant et noble pour demander le silence. Mesdames et messieurs, dit-il, j'ai traduit dans la langue française que Brunetto Latini disait être la plus délectable de toutes. La Jérusalem Liberata, le chef-d'œuvre glorieux du divin Torquato Tasso. J'ai écrit ce grand ouvrage dans un grenier, sans feu, sur du papier à chandelle, sur des cornets de tabac. Alors, d'un des coins du parloir, un rire d'enfant partit comme une fusée. Monsieur Tudesco s'arrêta et sourit, les cheveux épars, l'œil noyé, les bras ouverts comme pour embrasser et bénir. Puis il reprit. « Je dis, le rire de l'innocence et la joie du vieillard infortuné. Je vois d'ici des groupes dignes du pinceau du collège et je dis, heureuses les familles réunies en paix dans le sein de la patrie. Mesdames et messieurs, excusez-moi si je vous tends le casque de Bélisaire, je suis un vieillard foudroyé. » Et il tendait de groupe en groupe son feutre pointu, où dans un silence glacial tombaient une à une de menues pièces d'argent. Mais tout à coup, le préfet des études saisit le chapeau et poussa le vieil homme dehors. « Rendez-moi mon chapeau !» criait M. Tudesco au préfet, qui s'efforçait de restituer les pièces blanches au donateur. « Rendez-moi le chapeau du vieil homme, le chapeau de l'homme blanchi dans les études !» Le préfet, rouge de colère, jeta le feutre dans la cour et cria « Filez ou je vous fais arrêter !» Le marquis Tudesco s'enfuit lestement. Le soir même, le maître d'études, appelé chez le directeur, reçut son congé. « Malheureux enfant !» dit l'abbé Bordier en se frappant le front. « Vous avez causé un scandale inconcevable, inouï, dans cette maison, et cela au moment où j'avais tant à faire. » Et les petits papiers voltigeaient comme de blancs oiseaux sur la table du directeur. En traversant le parloir, Jean revit la Mater Dolorosa et relut les noms de Philippe Guy de Tirschertz et de la comtesse Valentine. « Je les hais, » dit-il, les dents serrées, « je les hais tous. » Pendant ce temps, le bon prêtre se sentit pris de pitié. On lui rompait tous les jours la tête avec des rapports contre Jean Servien. Cette fois, il avait cédé, il avait sacrifié le jeune surveillant. Mais il ne comprenait rien à cette histoire de mendiant. Il se ravisa, il courut à la porte et rappela le maître d'études. Jean se retourna vers lui. « Non, non, dit-il, non, non, je ne puis supporter cette vie. Je suis malheureux, je souffre, je hais. Pauvre enfant, soupira le prêtre en laissant tomber ses bras. Ce soir-là, il ne fit pas un seul vers de sa tragédie. Le bon relieur ne fit aucun reproche à son fils. Après dîner, il alla s'asseoir à la porte de sa boutique et regarda la première étoile allumée dans le ciel. « Mon garçon, dit-il, je ne suis pas un savant comme toi, mais j'ai une idée, il ne faut pas me l'ôter parce qu'elle me console. » C'est que, tu vois, quand j'aurai fini de relier des livres, j'irai dans cette étoile-là. Cette pensée m'est venue de ce que j'ai lu dans le journal, que toutes les étoiles, c'était des mondes. Comment nommes-tu cette étoile? Papa, c'est Vénus. Dans mon pays, on dit que c'est l'étoile du berger. Elle est belle, et je pense que ta mère y est.
C'est pour cela que je voudrais y aller. Le vieillard passa ses doigts tordus sur son front et murmura « Comme on oublie ceux qui sont partis, mon Dieu !» Jean recueillit dans des lectures de poètes et dans des promenades rêveuses son âme endolorie. Sa tête s'emplit de visions. Ce fut bientôt un désordre sublime dans lequel flottaient Ophélie et Cassandre, Marguerite, Délie, Phèdre, Manon et Virginie, et au milieu d'elles, des ombres sans nom encore, presque sans forme et pourtant séduisantes. Tenant des coupes et des poignards et traînant de longs voiles, elles allaient et venaient, s'effaçaient et se coloraient. Et Jean les entendait qui lui disaient « Si nous existons jamais, nous existerons par toi. Et quel bonheur ce sera pour toi, Jean Servien, de nous avoir créés, comme tu nous aimeras. » Et Jean Servien leur répondait « Revenez, revenez, ou plutôt ne me quittez pas. Je ne sais comment vous rendre plus visible. Vous vous effacez dès que je vous contemple, et je ne puis vous prendre dans le filet des beaux vers. » Il essaya à plusieurs reprises d'écrire des poèmes, des tragédies, des romans. Mais sa paresse, sa stérilité, ses scrupules et ses délicatesses l'arrêtaient dès les premières lignes, et il jetait au feu la page à peine noircie. Bientôt découragé, il tourna ses pensées vers la politique. Les funérailles de Victor Noir, les émeutes de Belleville, le plébiscite l'occupaient. Il lisait les journaux, se mêlait aux groupes formés sur les boulevards, suivait la foule ameutée des blouses blanches et était de ceux qui huaient le commissaire de police pendant les trois sommations. Le désordre, les criailleries le grisaient. Son cœur battait, sa poitrine se gonflait, toute son âme s'exaltait au milieu de ces stupides bousculades. Enfin, après avoir piétiné côte à côte avec les badauds, bien avant dans la nuit, les jarrets rompus, les côtes endolories, la tête vague, grisée d'emphase et de tapage, il regagnait à travers les rues désertes le faubourg Saint-Germain. Et là, il jetait en passant un regard de haine à quelque hôtel portant un écu à son fronton et dont deux lions de pierre éblouis par la lune gardaient la porte close. Puis, continuant son chemin, il s'imaginait debout, un fusil à la main sur une barricade, dans la fumée de l'émeute avec des ouvriers et des jeunes gens des écoles, comme cela se voit dans les lithographies. Un jour, au mois de juillet, il vit une troupe de blouses blanches qui passait sur le boulevard en criant « À Berlin !» Des gamins dépenaillés glapissaient alentour. Les bourgeois, surpris, faisaient la haie et ne disaient rien. Mais un d'eux, gros, grand et coloré, agita son chapeau et cria « À Berlin, vive l'empereur !» Jean reconnut M. Bargemont. La rue du Rempart. Des baraques de campement et des fusils en faisceau gardés par un factionnaire. Les gardes nationaux jouent au bouchon. Un soleil d'automne répand sa clarté magnifique et douce sur les dômes de la ville assiégée. Par-delà les remparts, la campagne grise et nue. Au loin, les casernes des forts, au-dessus desquelles montent des flocons de fumée. À l'horizon, les collines où les batteries prussiennes qui tirent font traîner des nuages blancs. Le canon gronde. Il gronde depuis un mois. On ne l'entend plus. Servien et Garneret, portant le képi à passepoil rouge et la vareuse à boutons de cuivre, sont assis sur des sacs de terre et se penchent
sur le même livre. C'était un Virgile, et Jean lisait tout haut les délicieux vers du Silène. Deux jeunes hommes ont surpris le vieillard divin, endormi dans cette ivresse dont il a l'habitude, et qui le rend risible en le laissant vénérable. Ils l'ont lié avec des fleurs pour obtenir de lui des chants. Les joues teintent par régler la belle naïade du suc rouge des murs. Ils chantent comment dans le vide immense furent condensés les germes de la terre, de l'air, des mers et aussi du feu subtil. Comme de ces principes sortirent toutes choses et se consolida le tendre globe du monde. Comme alors le sol commença de s'affermir et d'enfermer Nérée dans la mer et de prendre peu à peu les formes des choses. Et déjà la terre s'étonne que brille le premier soleil, et de plus haut les pluies tombent des nuées allégées. Les forêts d'abord commencent à se lever, de rares animaux errent par les montagnes innommées. Et les gens s'interrompaient. Oh, que cela, disait-il, peint bien l'âme sérieuse et tendre de Virgile. Le poète a mis une jeunesse dans une idylle. L'Antiquité le surnommait la Vierge. C'est le nom qu'il faut donner à sa muse, et il faut se la figurer comme une mnémosyne méditant sur les travaux des hommes et les causes des choses. Pendant ce temps, Garneret, plus sérieux et le doigt sur le texte, rassemblait ses idées. Les joueurs de bouchons faisaient rouler jusqu'à ses pieds les palets de cuivre. La cantinière passait et repassait avec son petit tonneau. « Vois-tu, Servien, dit-il enfin, dans ces vers, Virgile, ou plutôt le poète alexandrin qui l'imitait, a pressenti la grande hypothèse de Laplace et les théories de Charles Lyell. Il montre la matière cosmique, ce néant d'où tout doit sortir, se condensant pour former des mondes, la jeune écorce du globe se consolidant, puis la formation des îles et des continents. Au milieu des pluies, l'apparition du soleil jusque-là voilée par des nuages opaques, la vie végétale se manifestant avant la vie animale, parce que celle-ci ne peut se soutenir et durer qu'en absorbant les éléments de la première. À ce moment, il se vit un mouvement dans la rue du Rempart. Les joueurs de bouchons s'arrêtèrent et les deux amis levèrent la tête. C'était un convoi de blessés qui passait. Les grandes tapissières marquées de la Croix-Rouge de Genève laissaient voir sous leurs rideaux des faces blêmes entourées de linges sanglants. Des lignards et des mobiles, le bras en écharpe, suivaient à pied. Les gardes nationaux leur tendaient des poignées de tabac et leur demandaient des nouvelles. Les blessés secouaient la tête et passaient leur chemin. « Mais est-ce que nous aussi nous n'allons pas bientôt nous battre ?» s'écria Garneret. Servien lui répondit, « Il faut déposer les traîtres, les incapables qui nous gouvernent, proclamer la commune et marcher tous contre les Prussiens. » La haine de l'Empire qu'il avait laissé souffrir dans une arrière-boutique et dans une salle d'études, l'amour de la République dont il attendait tout, avait échauffé dès le 4 septembre l'enthousiasme guerrier de Jean Servien. Mais il se fatigua vite des longs exercices dans le jardin du Luxembourg et des gardes inutiles au pied des remparts. L'ivresse sentimentale des boutiquiers pris de vin et de patriotisme l'écœurait, et ce jeu aux soldats à jeun dans la boue lui sembla à la longue d'un goût détestable. Garneret était par bonheur son compagnon de garde, et Servien subissait l'affluence de cette pensée ordonnée et riche, soumise au devoir et à la réalité. Cela seul le sauvait d'un amour sans passé comme sans espoir, qui prenait la fixité dangereuse d'une maladie mentale. Il y avait longtemps qu'il n'avait revu Gabriel. Les théâtres étaient fermés. Il savait seulement, d'après les journaux, qu'elle soignait les blessés dans l'ambulance du théâtre. Il ne la cherchait plus. Quand il n'était pas de service, il lisait dans son lit, car l'hiver était rude et l'on manquait de bois, ou bien il courait aux nouvelles sur les boulevards et se mêlait au groupe. Un soir, dans les premiers jours de janvier, comme il passait devant la rue de Rouault, il fut attiré par des bruits de voix et vit M. Bargemont malmené par des gardes nationaux de mauvaise mine. « Je suis plus républicain que vous !» s'écria le gros homme. « J'ai toujours protesté contre les infamies de l'Empire. Mais quand vous criez « Vive Blanqui !» permettez. J'ai le droit de crier « Vive Jules Fabre !» permettez, j'ai le droit. » Les huées qui s'étaient élevées lui couvrirent la voix. Des gens en képi lui montraient le poing et l'appelaient traître, capitulaire, badingouin. Sur sa large face, défaite par la peur, gestait encore de vieux plis d'insolence bourgeoise. Une fille qui passait cria « Allô !» 100 fois répétèrent « Allô !» À ce moment, il se fit une grande poussée et M. Bargemont se jeta dans la cour de la mairie. Une escouade de gardiens de la paix le reçut et se referma sur lui. Il était sauvé. La foule amassée s'écoula peu à peu, et Jean entendit le récit de l'affaire passer de bouche en bouche avec toutes sortes de déformations. Les derniers venus apprirent qu'on venait d'arrêter un général allemand qui s'était introduit comme espion dans Paris pour livrer la ville avec l'aide des bonapartistes. Le passage redevenu libre, Jean fit M. Bargemont sortir de la mairie. Il était fort rouge et la manche de son pardessus disloquée. Jean eut l'idée de le suivre. Le long des boulevards, il le suivit par amusement, de fort loin et sans s'inquiéter de le perdre. Mais quand le fonctionnaire prit une rue transversale, le jeune homme le serra de plus près. Il ne songeait encore à rien, mais l'instinct le poussait. M. Bargemont tourna à droite. La rue assez large était déserte et mal éclairée par des quinquets de pétrole qui remplaçaient les becs de gaz. Cette rue, Jean Servien la connaissait mieux que tout autre. Il était tant de fois venu. La forme des portes, la couleur des boutiques, les lettres des enseignes, tout lui en était familier. Il n'y avait pas jusqu'à la sonnette de nuit du pharmacien qui ne lui fût un souvenir et ne l'émût. Les pas des deux hommes retentissaient dans le silence. M. Bergeron se retourna. Il fit quelques pas encore et sonna à une porte. Jean Servien l'avait rejoint. Il était là aussi, devant la porte. C'était celle qu'il avait embrassée dans une nuit de désespoir. C'était celle de Gabriel. La porte s'ouvrit. Jean fit un pas et M. Bargemont, entrant le premier, la laissa ouverte, pensant que ce garde national était un locataire qui rentrait. Jean se coula dans l'escalier noir et monta 2 étages. M. Bargemont sonnait au 3e palier. On ouvrit. Jean entendit la voix de Gabriel. « Oh, comme tu viens tard, mon cher. J'ai envoyé Rosalie se coucher. Je t'attendais, tu vois. » Le gros homme, tout soufflant, répondait. « Mais figure-toi qu'ils ont voulu me jeter à l'eau, ces coquins. Mais c'est égal, je t'apporte quelque chose de rare et de cher, un pot de beurre. Comme le petit chaperon rouge, reprit la voix de Gabriel. Entre, tu me conteras cela. Entends-tu? Oh oui, le canon, ça ne cesse pas. Non, 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 le bruit d'une chute dans l'escalier. Oh, tu crois? Donne-moi la bougie, je vais voir. » Monsieur Bargemont descendit quelques marches et vit Jean étendu, sans mouvement, sur le palier. « Un ivrogne, dit-il. Y en a tant, ce sont des ivrognes aussi qui voulaient me noyer. » Il éclairait de sa bougie la face blême de Jean. Gabriel, penché sur la rampe, regardait. « C'est pas un homme ivre, dit-elle, il est trop pâle. C'est peut-être un malheureux garçon qui meurt de faim. Quand on en est réduit au pain du gouvernement et à la viande de cheval. » Puis elle regarda plus attentivement sous ses sourcils froncés et murmura « C'est singulier, c'est vraiment singulier. »« Est-ce que tu le reconnais ?» demanda le gros homme. « Ben, je cherche à me rappeler. » Mais déjà, elle s'était rappelé le baiser sur la main devant la grille de la petite maison. Elle courut dans son appartement, revint avec une carafe et un flacon d'éther, s'agenouilla devant l'homme évanoui, puis de son bras, qu'entourait le brassard blanc des infirmières, elle souleva la tête de Jean. Il rouvrit les yeux, la vit, poussa le plus grand soupir d'amour qui soit jamais sorti d'une poitrine humaine, et sentit ses paupières retomber doucement. Ils ne se rappelèrent rien. Seulement, elle était penchée sur lui, et elle l'avait caressé de son souffle. Elle lui mouillait les tempes, et il se sentait renaître délicieusement. M. Bargemont pencha la bougie sur Jean Servian, qui, rouvrant les yeux pour la seconde fois, vit la joue rouge du gros homme effleurant l'oreille délicate de la tragédienne. Il poussa un grand cri et s'agita convulsivement. « C'est peut-être une crise d'épilepsie ?» dit M. Bargemont en toussant, car il s'enrhumait dans cet escalier. Elle reprit. « On ne peut pas laisser un malade sans secours. Réveillez Rosalie. » Comme il remontait en grognant, Jean s'était remis debout. Il détournait la tête. Elle lui dit tout bas, « Mais vous m'aimez donc encore ?» Il la regarda avec une indéfinissable tristesse. « Non, non, je ne vous aime plus. » Et il descendit l'escalier en trébuchant. M. Bargemont reparut. « C'est particulier, dit-il, Rosalie ne me répond pas. » L'actrice haussa les épaules. « Tenez, allez-vous-en, j'ai une horrible migraine. Allez-vous-en, Bargemont. » Elle était la maîtresse de Bargemont. C'était pour Jean Servien la plus horrible torture et la plus inattendue. Il avait de la haine et du mépris pour ce gros homme dont il connaissait la fausse bonhomie, la brutalité, la sottise et la platitude. Cette face couperosée, ses yeux hors de la tête, ce front traversé par une veine bleue noire, cette main lourde, cette âme louche et vulgaire, était-ce donc là le... Oh, quel dégoût de le penser! Le dégoût, voilà ce que la nature délicate de Servien ressentait le plus péniblement. Dans sa moralité un peu sûre, il aurait pardonné à Gabriel des vices élégants, des monstruosités exquises, des crimes romanesques, mais ce Bargemont et son pot de beurre. Ne jamais posséder la plus désirable des femmes, ne plus la revoir, il le voulait bien encore. Mais la savoir dans les bras de cette lourde brute, c'est ce qui lui rendait impossible la pensée et la vie. En songeant ainsi, il avait regagné instinctivement son quartier. De longs sifflements lui passaient au-dessus de la tête et il entendait d'effroyables détonations. Des gens le croisaient, coiffés de foulards et portant des matelas sur leur dos. Au coin de la rue de Rennes, il heurta du pied un réverbère couché sur le trottoir, près d'un mur éventré. Devant la boutique du relieur, il vit un grand trou. Il allait ouvrir la porte, un obus l'avait défoncé, et l'on voyait dans l'ombre l'établi culbuté. Il se rappela alors que les Allemands bombardaient la rive gauche, et il voulut courir dans les rues sous les obus. Une voix qui sortait de dessous terre l'appela. « C'est toi, mon garçon, viens, oh, viens vite, tu m'as causé une fameuse inquiétude. Descends, nous sommes installés dans la cave. » Il suivit son père et trouva des lits dans les caveaux. Le plus grand caveau servait de cuisine et de salon. Là, le relieur montrait sur une carte au concierge et au locataire la position des armées de secours. La tante Servia, dans l'ombre, les yeux ternes et fixes, suçait lentement du biscuit trempé dans du vin. Elle ne comprenait rien à tout ce qui se passait et gardait de la défiance. Ce petit monde, ainsi terré depuis la veille au soir, demanda des nouvelles au fils servien. Puis le relieur reprit les explications qu'on lui avait demandées comme un ancien militaire et un homme sérieux. « Il s'agit, disait-il, de tendre la main à l'armée de la Loire à travers le cercle de fer qui nous étreint. L'animal Larossière a enlevé les positions d'Épinay en avant de longs jumeaux. » Puis, s'adressant à Jean, « Mon garçon, trouve donc Longjumeau sur la carte. Je n'ai plus mes yeux de 20 ans, mais ces chandelles éclairent très mal. » À ce moment, une formidable explosion secoua les pierres de taille et remplit la cave de poussière. Les femmes poussèrent de grands cris. Le portier alla faire sa ronde, tâtant les murs avec ses grosses clés. Une énorme araignée courut sur la voûte. Puis la conversation reprit tranquillement, et deux locataires se mirent à jouer aux cartes sur un tonneau. Jean, brisé de fatigue, s'endormit à terre d'un affreux sommeil. « Est-ce que le petit est rentré ?» demanda la tante Servien en suçant son biscuit.